Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe.
Salut Mathieu.
On va parler, entre autres, avant de parler du dossier Pacioretty, parlons un peu de Nate Schmidt. T'as vu des Golden Knights qui a été suspendu 20 matchs pour une violation à la politique antidopage de la Ligue nationale de hockey. C'est à croire que pour les suspensions, pour blessures, pour des gestes violents, on est moins sévère, on dirait.
Oui, tout à fait. C'est une sanction qui frappe un peu l'imagination. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense, Mathieu, qu'en matière de dopage, il n'y a plus d'excuses. Je lisais les commentaires de Nate Schmidt qui dit « Écoutez, moi, j'ai jamais pris un produit interdit de façon délibérée. Je sais pas comment ça s'est retrouvé dans mon organisme. À l'audience, il y a un expert qui est venu témoigner puis il a dit que la quantité qui se retrouvait dans mon organisme, c'était l'équivalent dans... Si on prenait comme mesure de comparaison une piscine olympique, ce serait une pincée de sel dans la piscine olympique. Et je veux bien, on entend tout ça, puis lui, peut-être qu'il dit vraiment sa réalité et tout, mais il en reste pas moins qu'aujourd'hui, en matière de dopage, il y a des seuils, puis quand ces seuils-là ne sont pas remplis ou quand ils ne sont pas respectés, il y a des suspensions, puis la crédibilité des athlètes, c'est dommage, mais dans des cas de dopage aujourd'hui, il faut qu'ils vivent avec les conséquences des résultats positifs. Et c'est sûr que nier le résultat d'un test de dopage, c'est une réalité qu'on voit très, très souvent. Il n'est pas le premier athlète à le faire. Peut-être qu'il dit entièrement la vérité. On peut pas présumer le contraire, mais il en reste pas moins qu'il y a un seuil. Il ne l'a pas respecté. Il est sanctionné. Et je pense qu'il doit accepter sa suspension, tout simplement.
Dis-moi, Philippe, on va revenir un peu plus près de notre cours. La saison du Canadien s'amorce cette semaine avec le camp des recrues, entre autres, qui aura lieu. Et il me semble, en tout cas, il semble pas avoir une grosse effervescence autour de la saison du Canadien, là.
Non. C'est sûr que quand tout commence de façon aussi bizarre avec une querelle entre le capitaine de l'équipe et la direction, Mathieu, c'est assez catastrophique comme organisation, comme piste de départ pour lancer cette saison. Et c'est d'autant plus troublant que le Canadien a connu une saison extrêmement difficile l'an dernier, on le sait tous, que la direction a dit « bon, problème d'attitude, il faut régler ça ». Et là, on va arriver... Quelle va être l'attitude de cette équipe-là au camp d'entraînement avec ce dossier-là, Pacioretty? On parle d'un joueur qui est tellement important dans l'équipe. C'est le capitaine. C'est sûr que ça va pas entre lui et l'organisation. L'organisation doit l'échanger le plus rapidement possible, j'ai l'impression, parce que commencer la saison avec lui, ça va devenir une distraction absolument énorme. Et tu sais, je pense que chez le Canadien aujourd'hui, il y a une image là qui va rester, qui va coller, moi qui m'a beaucoup marqué, cette poignée de main tellement tendue entre Marc Bergevin et Max Pacioretty au tournoi de golf du capitaine là il y a quelques jours. Et ça marque les esprits parce que ça donne l'idée d'une organisation qui ne va pas bien. Et c'est encore une fois un problème du Canadien à gérer le dossier d'un joueur vedette. Et ça finit tellement mal, tellement souvent. Pense à Piqué Subban qui a été échangé parce que bon, il était moins populaire auprès de ses coéquipiers. On n'a pas été capable de gérer ça. Après ça, comment s'est terminée l'histoire de contrat d'Andrei Markov? Comment s'est terminée l'histoire de contrat d'Alexander Radulov? Galchenyuk, ça s'est plus ou moins bien terminé aussi. Et là, c'est le cas de Pacioretty. Là, tu te dis, donc, quand est-ce que tout ça va prendre fin? Est-ce qu'on va réussir un jour à remettre le train sur les rails puis de façon à ce que les joueurs vedettes soient capables de travailler avec la direction et vice-versa?
Mais c'est drôle parce que, tu sais, si c'était un cas, voire deux cas, tu sais, OK, des conflits de personnalité, ça existe. Des gens qui s'entendent pas, puis des relations tumultueuse entre le lien employé-employeur, ça arrive, tu sais, dans ton milieu de travail. Là, t'en as 5 en 2 ans, t'as toujours le même point. Le seul point commun, c'est Marc Bergevin à chaque fois.
Ouais. Tout à fait. Puis moi, je pense qu'il y a un problème chez le Canadien au niveau de la gestion du capital humain. Aujourd'hui, c'est tellement fondamental dans une entreprise. C'est quoi les liens que tu établis avec tes employés? Puis je pense que le hockey professionnel n'est pas différent de n'importe quel autre secteur de la vie, peu importe le métier qu'on exerce. Pour avoir des performances optimales, il faut qu'il y ait un minimum, en fait, plus qu'un minimum. Il faut qu'il y ait une bonne relation entre le patron et les employés. Puis là, à l'heure actuelle, on voit pas ça. Et parce que Pacioretty aussi, faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des amis dans le vestiaire. Là. Il y a des joueurs qui doivent regarder ça et dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe au juste? Là? Et tu sais, ils vont tous dire, ah ben, on va essayer de pas trop s'en mêler et tout. Mais on sait très bien que dans un vestiaire de hockey, quand la porte est fermée, ça jase. Ça jase beaucoup. Et moi, je pense que pour le Canadien, la situation Encore une fois, incapable de gérer ça. On est rendu presque au début du camp d'entraînement. C'est un dossier qui devient très, très lourd, où l'agent de Pacioretty s'en mêle aussi. Confirme qu'il y a eu une transaction avec les Kings de Los Angeles, puis que ça n'a pas fait. Et tout ça, c'est un dossier qui va mal. Et pour une équipe qui voulait nous dire à la fin de la dernière saison qu'il y aurait plus de transparence, qu'il fallait régler le problème d'attitude, qu'il fallait repartir pour des bases solides cette saison, jusqu'à maintenant, ben c'est raté. Et il y a encore un peu de temps, le camp d'entraînement n'est pas commencé. Mais imagine aussi, Mathieu, ça c'est l'autre facteur qui est tellement important. Imagine que toi, tu es un directeur général d'une autre équipe, puis que tu es potentiellement intéressé à Max Pacioretty.
Il paiera pas cher pour, hein?
Ben voyons, c'est sûr, parce que c'est tellement clair que le Canadien ne veut plus l'avoir, que tu vas offrir l'offre la plus minimale. Donc, ça enlève énormément de pouvoir de négociation à Marc Bergevin. Alors, dans le contexte, lui, il va dire, écoute, est-ce que je suis mieux de le garder tout à coup qu'il y a une bonne saison ou je vais attendre la date limite des transactions? Mais là, dans quel état d'esprit Pacioretty va jouer? Quelle va être l'influence sur le reste de l'équipe s'il n'est pas trop content? Puis quel genre de saison il va avoir? Puisqu'aux dernières nouvelles, là, Pacioretty, je ne pense pas que le Canadien est allé chercher un gros joueur de centre pendant l'été ou quelqu'un pour vraiment lui faire des passes. Alors donc, ça risque d'être encore difficile de ce côté-là. Alors je pense que le Canadien est dans une situation extrêmement délicate. Probablement que l'équipe va réussir à l'échanger, mais quelle va être la contrepartie obtenue en retour? Ça risque d'être minimal et ça, c'est triste parce que Pacioretty est un joueur qui a quand même de la valeur sur le marché.
Oui, puis c'est comme on dit, des actifs de valeur dans cette formation-là, il n'y en a pas des tonnes non plus. Là.
Non, puis quand tu attends trop avant d'échanger un joueur, peut-être que si ça fait longtemps que le conflit couvait, il faut passer à l'action. Regarde ce qui s'est passé au baseball cette semaine, c'est assez intéressant. Josh Donaldson, grande vedette des Blue Jays de Toronto dans leur course en série en 2015-2016, on attend avant de l'échanger parce qu'on dit, bon, on veut mettre encore du monde dans les gradins cette année et tout. Finalement, il est blessé, il perd sa valeur et finalement, tu es obligé de le donner aux Indiens de Cleveland qui se retrouvent là avec un joueur qui potentiellement peut connaître un rebond au mois de septembre et en octobre en séries éliminatoires parce que les Indiens y seront et faire la différence. Et tu n'auras rien obtenu en retour. Et moi, je vois le cas Donaldson cette semaine, là. Puis je me dis, est-ce que c'est ça la suite du cas Pacioretty? Ça risque de ressembler beaucoup.
Et les Blue Jays ont quelques actifs semblables. Ils ont quelques cas semblables. Tu sais, tu penses à Encarnacion qui est parti lui aussi chez les Indians pour rien. Batista est parti pour quoi? Pour rien aussi. Tu sais, tu as trois de tes meilleurs joueurs qui ont quitté avec le temps, là, avec absolument rien. Ceci dit, est-ce que tu penses qu'il va être là au jour 1, premier match au Centre Bell? Est-ce que Max Pacioretty sera présenté à la foule?
Ben, bonne question. Moi, je pense que le Canadien va tout faire pour l'échanger. Je pense que la direction est sûrement très au courant que s'il est là, ça devient une distraction. Là, t'imagines Claude Julien, là. Imagine le début du camp d'entraînement. Là. C'est supposé être un moment d'enthousiasme. Toutes les équipes se rapportent au camp d'entraînement. Ceux qui ont eu une mauvaise saison disent « Hey, on va tourner la page, on passe sur une nouvelle saison. » Là, ça va arriver. La première question à Claude Julien, c'est « Claude, qu'est-ce que tu vas faire avec Max Pacioretty? Penses-tu qu'il va bouder? Penses-tu que Bergevin veut toujours l'échanger? Comment tu vas composer avec ça? » Ça va être ça, l'enjeu du camp d'entraînement. Alors, si tu es le Canadien, tu dis « Est-ce qu'on veut vivre ça? » La réponse, c'est non. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il l'échange. Mais encore une fois, quelle sera la contrepartie? Elle risque d'être très modeste. Ce sera un échec, à mon avis, pour le Canadien à ce moment-là.
Philippe Quentin, merci infiniment. À la prochaine.
Salut, Mathieu.
Salut bien. Au revoir.